Le journal Anne-Laure Chouin, bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une étudiante juive a-t-elle été empêchée d'entrer dans une conférence sur la Palestine à Sciences Po Paris? La polémique a fait réagir jusqu'au gouvernement hier, alors que les étudiants juifs de France dénoncent un climat de plus en plus hostile sur les campus.
Vincent Bolloré a été auditionné hier par les députés chargés d'attribuer les fréquences de la TNT. Le grand patron a nié tout interventionnisme à Canal+.
Et puis à l'étranger, nous reviendrons sur la décision américaine de couper TikTok sur son territoire si le réseau social ne coupe pas lui-même tout lien avec la Chine. Après ce journal, votre question du jour, Marguerite Caton.
Qu'attendre d'une fusion entre France Télévisions et Radio France ?
De crise en crise, décidément, Sciences Po Paris enchaîne les polémiques. Hier, la prestigieuse école parisienne a même fait coup double. On apprenait le matin la démission de son directeur, Mathias Vichra, après son renvoi devant le tribunal pour violence conjugale. Avant qu'un autre incident ne fasse la une étudiante juive aurait été empêchée d'accéder à une conférence pro-palestinienne. Ce qui s'est réellement passé est encore assez flou, mais ça n'a pas empêché le gouvernement de s'en mêler et de saisir le procureur. Plus généralement, le conflit au Proche-Orient embrase ce campus de Sciences Po, un peu à l'image de ce qui se passe sur plusieurs campus américains comme Harvard, à savoir un mouvement de polarisation d'une partie des étudiants et du corps enseignant sur le conflit au Proche-Orient. Plus grave, selon un baromètre réalisé par l'IFOP pour l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF, 91% de jeunes juifs ont déjà été victimes d'un acte antisémite à l'université. Des résultats publiés avant le 7 octobre, Samuel Lejoyeux, le président de l'UEJF, explique que les étudiants juifs se sentent ostracisés au sein de certains établissements. Écoutez-le.
Il y a un mois, à Strasbourg, nous avons trois étudiants qui collaient des affiches, des visages des otages et qui, sur le campus de droit, ont été pris à partie et tabassés par trois étudiants qui passaient par là. Donc oui, il y a même des violences. Et encore une fois, ce que l'on reçoit également, c'est des messages de cette ostracisation au quotidien. Par exemple, le fait que quand quelqu'un s'assoit à côté d'un étudiant juif, il va changer de siège et s'asseoir plus loin, histoire de ne pas être à côté d'un sioniste. Ça va être des étudiants juifs qui vont avoir personne avec qui faire un exposé, parce que personne ne veut faire l'exposé avec le juif, avec le sioniste. Dans notre enquête que nous avions commandée à l'IFOP, il y avait ce chiffre terrifiant d'un étudiant juif sur trois qui faisait son choix d'orientation au regard de la peur de l'antisémitisme. Ça n'a rien à voir avec la cause palestinienne, et je veux être très clair là-dessus. Soutenir la cause palestinienne, c'est quelque chose qui est légitime et même important dans la période. Nous, ce qu'on dénonce, c'est le fait de s'en prendre aux Juifs à cause de cela.
Des propos recueillis par Mircea Nezic. Antisémitisme à l'université et racisme dans le monde du travail. Hier, une décision de justice a condamné le géant mondial de l'intérim, Adecco, à 50 000 euros d'amende pour discrimination à l'embauche et fichage à caractère racial, plus de 20 ans après les faits. Le groupe franco-suisse, ainsi que deux de ses cadres, étaient poursuivis par d'anciens salariés et des associations antiracistes pour avoir mis en place un système de discrimination donc fondé sur la couleur de peau. Une condamnation qui est aussi l'occasion pour les associations antiracistes de réclamer qu'une véritable politique publique de lutte contre les discriminations racistes soit enfin définie. Anne Fauquemberg.
Toutes les études statistiques le disent, les discriminations raciales dans l'emploi sont extrêmement bien ancrées. Cette semaine, SOS Racisme a publié les résultats d'un testing, un test de discrimination qui concerne le secteur de l'intérim. Cette étude révèle que 61% des agences contactées adoptent, je cite, un comportement problématique. Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, explique.
Il y a beaucoup de moyens de contournement en matière de discrimination. À partir du moment où vous luttez contre les discriminations, ceux qui vont avoir tendance à pratiquer la discrimination vont trouver des façons de contourner la loi. Quand nous faisons des testings en se faisant passer pour des clients, enfin des testings inversés, c'est pas vraiment des testings, et où on dit nous sommes des employeurs, est-ce que vous pouvez trier pour nous ? vous, agents d'intérim, elles vont dire non parce qu'elles savent bien que c'est illégal. Par contre, elles disent, ben, faites-le vous-même. Hein, donc, il y a toujours des moyens de contourner et c'est en cela qu'il faut être vigilant lorsque l'on traite ce sujet.
Selon les trois associations antiracistes, partie civile dans l'affaire Adecco, la loi sur la formation à la non-discrimination à l'embauche n'est toujours pas bien appliquée et surtout les formations obligatoires, souvent sous la forme de visio ou de modules vidéo, ne permettent pas de remettre en question des routines, parfois inconscientes. Sur le plan judiciaire, les procédures se comptent sur les doigts d'une main. Selon SOS Racisme, aucune, par exemple, n'a abouti à une condamnation en 2021. L'association dénonce également des peines peu dissuasives.
Gabriel Attal persiste et signe. Il y aura bien des groupes de niveau en français et en mathématiques au collège. Une réforme massivement contestée par les enseignants et sur laquelle sa ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, avait semblé reculer. Les groupes de niveau seront la règle et les classes entières l'exception dans ces deux matières, a répété le Premier ministre dans un entretien à l'AFP. On y reviendra dans le journal de 8 heures. La commission d'enquête parlementaire chargée d'attribuer les fréquences de la TNT continue d'auditionner les acteurs du groupe Canal. On rappelle que le groupe de Vincent Bolloré est dans le viseur de l'Arcom, plus particulièrement sa chaîne CNews, accusée de favoriser le temps de parole de l'extrême droite. Après les animateurs phares de CNews, puis la direction générale de Canal, c'était au tour du grand patron Vincent Bolloré lui-même d'être auditionné hier. Pour lui, le problème, ce ne sont pas les chaînes de son groupe, mais ce qu'on pense de sa personne. Résumé de l'audition avec Aurore Richard.
Dans son costume gris, Vincent Bolloré se présente comme issu d'une famille catholique, bretonne, riche et célèbre. Le propriétaire du groupe Canal+ est très rapidement questionné sur son interventionnisme supposé.
Je ne suis jamais intervenu dans les contenus, en aucune façon, dans le groupe Canal. Et en plus, j'ai pas le temps et ça demande un temps fou parce que vous savez, nous avons, je sais plus combien, 20 chaînes ou 24 chaînes. Même si vous êtes un patron interventionniste, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc je n'ai pas fait.
Il assure ne pas avoir demandé la programmation d'émissions dédiées à la religion catholique, ne pas être celui qui a choisi d'exposer Éric Zemmour. Mais dans son discours, une phrase interpelle la députée écologiste Sophie Taillé-Polian.
Vous venez de dire, si je ne crois pas dans quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes. Finalement, c'est une façon un petit peu bizarre de parler à la première personne pour quelqu'un qui n'a aucun rapport avec ce qui passe à l'antenne, qui ne s'occupe de rien.
La chaîne CNews est-elle un média d'opinion ? Le milliardaire affirme n'avoir aucun projet idéologique. Pour lui, CNews et C8 sont des espaces de liberté.
Vous savez, sur le plan psychiatrique, c'est même inquiétant pour moi parce que de temps en temps, je lis mes aventures dans des lettres. C'est affreux, quoi. C'est un truc, c'est Attila passe et on ne repasse pas. Mais je suis, je vous dis, tout doux et débonnaire, et pas du tout un Attila.
Face aux critiques, Vincent Bolloré interpelle les députés. Vous devriez plutôt choyer ce groupe, votre champion national.
Et cet après-midi, le présentateur vedette de C8, Cyril Hanouna, sera entendu par la commission.
7h07 sur France Culture, la suite du journal. D'Anne-Laure Chouin aux États-Unis, une décision de la Chambre américaine des représentants ravive la tension diplomatique entre Washington et Pékin.
Oui, les élus américains ont adopté hier une proposition de loi qui prévoit l'interdiction de TikTok aux États-Unis si le réseau social ne coupe pas les liens avec sa maison mère chinoise ByteDance et plus largement avec la Chine. Le réseau social est dans le collimateur des autorités américaines depuis plusieurs mois. De nombreux responsables estiment que la plateforme de vidéos courtes permet à Pékin d'espionner et de manipuler les citoyens. Pour la Chine, en revanche, cette décision relève de l'intimidation. Le PDG de TikTok appelle ce matin ses utilisateurs américains à réagir massivement. Explication de notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy.
Avant même que la loi visant TikTok ne soit adoptée par le Sénat américain, ce qui n'est pas gagné, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a accusé les États-Unis de vouloir éliminer TikTok sans avoir jamais offert de preuves que TikTok menaçait la sécurité nationale américaine. Le porte-parole chinois a menacé en retour. En fin de compte, cette mesure se retournera contre les États-Unis. La plateforme compte environ 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis et est devenue un incontournable moyen d'expression pour des millions de jeunes Américains, mais aussi un outil commercial essentiel pour des millions de petites entreprises. Les auteurs de la loi affirment que depuis le passage de nouvelles lois de sécurité nationale en Chine en 2020, les entreprises chinoises sont tenues de transférer certaines informations au gouvernement. Mais TikTok nie depuis longtemps être utilisé comme un outil d'information du gouvernement chinois. L'entreprise a déclaré n'avoir jamais partagé de données d'utilisateurs américains avec les autorités chinoises et qu'elle ne le ferait pas si on le lui demandait. À ce jour, le gouvernement américain n'a pas non plus fourni de preuves soutenant ces accusations. Plusieurs journaux chinois ont publié des dessins satiriques ridiculisant l'initiative américaine. D'ailleurs, si la loi est finalement adoptée et que ByteDance se voyait acculé à vendre TikTok, les autorités chinoises pourraient à leur tour interdire la vente de ce fleuron des médias sociaux dont l'influence stratégique est indéniable.
Vladimir Poutine s'exprime à nouveau sur la question du nucléaire dans un entretien hier à la télévision russe et avant dimanche l'élection présidentielle. Le président russe se dit prêt à un conflit nucléaire, mais il déclare également n'avoir jamais songé à utiliser de telles armes en Ukraine. La Russie, qui est présente également sur d'autres terrains de conflit, en particulier en Afrique, et malgré la mort d'Evgeny Prigojine, fondateur du groupe paramilitaire Wagner, dans un mystérieux accident d'avion, depuis sa mort, une nouvelle structure a vu le jour, son nom Africa Corps. Difficile de ne pas faire le parallèle avec l'unité du Reich dirigée par Rommel pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette nouvelle milice intervient déjà dans plusieurs pays du Sahel. Les détails avec Valérie Krova.
D'Africa Corps, on connaît la chaîne Telegram où des photos de soldats russes débarquant au Burkina Faso ont été publiées fin janvier. À la différence de Wagner, la nouvelle organisation est directement placée sous la coupe du ministère russe de la Défense. Le journaliste et spécialiste de l'Afrique, Vincent Hugeux.
Prigojine, de par les réseaux qu'il a tissés, notamment en Afrique, il avait acquis une certaine marge d'autonomie. Et c'est ce que le Kremlin veut à tout prix éliminer comme scénario.
C'est d'ailleurs le vice-ministre russe de la Défense, Evkourov, qui supervise le nouveau bras armé du Kremlin. Si ses effectifs ne sont pas connus dans le détail, Africa Corps mène des campagnes de recrutement via des spots publicitaires pour attirer de nouvelles recrues. Pour le reste,
il y a à la fois des anciens de Wagner qui avaient déjà une position hiérarchique, mais qui ont en quelque sorte fait acte d'allégeance. Et puis d'autres éléments qui viennent directement de l'armée, des officiers qui sont jugés eux aussi d'une loyauté des reins.
L'installation récente d'une base militaire sous le label Africa Corps, à seulement 20 km de Ouagadougou, atteste de la volonté de Moscou de faire du Burkina la pièce maîtresse de son dispositif africain.
Et puis au sujet de la guerre en Ukraine et de la position de la France, Emmanuel Macron doit s'adresser ce soir aux Français à 20h. On termine ce journal avec un concours international de musique dédié à la visibilité des femmes chefs d'orchestre. La Maestra, c'est son nom, débute ce jeudi à la Philharmonie de Paris. 14 candidates âgées de 19 à 42 ans ont été retenues pour la troisième édition de cette compétition dans un univers où les hommes sont surreprésentés. Le reportage de Louis-Valentin Lopez.
Pour les jeunes chefs d'orchestre, il y a un avant et un après la Maestra. Anna Sulkowska-Migon peut en témoigner. La chef polonaise a remporté le premier prix en 2022.
Ça a complètement changé ma vie. Je dirigeais au maximum 4 concerts par an. Aujourd'hui, je dirige environ 3 concerts par mois.
Un accélérateur de carrière pour les lauréates. Stéphanie Childress confirme, en 2020, la franco-britannique est arrivée deuxième de la Maestra.
J'ai commencé à travailler beaucoup en France. C'était un très très beau tremplin. Ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses. Et même aujourd'hui, je travaille toujours beaucoup en France.
Rebecca Tong avait, elle, été sacrée lors de la première édition et sa victoire a non seulement boosté sa carrière, mais aussi inspiré une toute nouvelle génération de musiciennes originaires de son pays, notamment l'Indonésie.
Certaines m'ont contacté et m'ont dit à quel point je les avais inspirées. Ça m'a beaucoup touchée car je veux vraiment inspirer le plus de jeunes musiciennes possible. Et parce qu'en Indonésie, on ne voit pas beaucoup de jeunes femmes chefs d'orchestre qui font carrière à l'étranger.
Un moyen de s'épauler dans un milieu encore très masculin.
J'ai entendu certaines personnes dire « Si les femmes sont si talentueuses, pourquoi elles ne concourent pas avec les hommes ?»
J'espère que dans 10 ans, au moins, nous n'aurons plus besoin d'avoir des concours dédiés aux femmes chefs d'orchestre. Car d'ici là, l'équilibre homme-femme sera davantage respecté. C'est pour ça que la Maestra est essentielle, pour produire cet équilibre.
Et si elle reste lente, l'évolution est là. 14 femmes dans le top 100 des chefs les plus programmés en 2023, il n'y en avait que 4 il y a 10 ans.
Louis-Valentin Lopez. Le temps de ce jeudi en musique, douceur et lumière sur la majeure partie du pays, sauf sur la Bretagne, avec des pluies dans l'après-midi. Les orages vont arriver en soirée sur le sud-ouest. Les températures 3 à 11 degrés ce matin. Et cet après-midi, c'est quasiment le printemps, 15 à 20 degrés sur la plupart des régions. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture.
Une voix douce comme ça, les auditeurs vont s'endormir alors qu'ils doivent se réveiller dans quelques secondes. La question du jour de Marguerite Caton, qu'attendre d'une fusion entre France Télévisions et Radio France ?